Le retour avec Hugo, remplaçant de Gilles.
Bon, 7h17, Nicole. Pas supposé revenir se poser là à cette heure-là, mais ça paraît pas. Si j'en parle pas, ça paraît pas. On a en studio avec nous quelqu'un qui nous parle régulièrement de technologies, de nouvelles technologies, je dirais François Tadeil, qui est aussi porte-parole à temps perdu pour une petite compagnie de la basse-ville, Binox, qui a été acheté par un des plus importants producteurs et même transformateurs ou adaptateurs de jeux vidéo.
Là. Un éditeur.
Un éditeur, voilà le terme que je cherchais. François, ça va?
Ça va très bien.
Tu me disais que t'es un peu plus relax, par contre, avec les, c'est-à-dire que tu fais moins de télé, on t'a vu à la télé, puis on t'a vu dans plusieurs projets, puis là tu te dis je suis plus relax un peu, là je suis juste sur branchez-vous, sur jouer.com. Puis porte-parole de Binox, mais je vais me partir à un blog, puis je vais... T'es-tu aussi occupé qu'à l'époque ou...
Oui, je reste aussi occupé. Ouais. C'est juste que c'est plus diversifié à ce moment-là que la télé seulement.
Ouais, les shows de télé, c'est ça que tu racontais quand tu faisais... C'était quoi, toi? C'était Canal Vox?
C'était Micro-Info, le Canal Vox. On a eu Télémag avant pendant à peu près 3 ans chacun, à peu près 3 ans et demi. Là.
OK. Mais à un moment donné, c'est du stock, hein?
Oui, 350 émissions, ça, on fait le tour.
Okay. Dis-le donc, ça t'empêchait de jouer à Call of Duty 2.
C'est sûr, chez Binox, lors du dîner, on joue à des jeux vidéo, donc
vous
ça
êtes
l'avantage.
Malade. Les gars dînent en 3 minutes, puis ils jouent 57 minutes en réseau. C'est bizarre, je le crois. Mais au moins, faut quand même saluer la performance de tous les autres employés, non, de plusieurs autres employés de Binox, excluant François Tadeil, qui ont emboîté le pas, ou emboîté le clipper, pour participer au défi des têtes rasées. Fallait voir la gueule de ces ex-détenus. À l'époque, vous avez tous une belle chevelure.
Oui, j'ai vu cette photo-là.
Le après était beaucoup plus rassurant, même que le après faisait dire à Marie-Claude, une coupe de papier. Mais ça, avec des cheveux longs, des fois, ça change un style. Je n'ai pas invité pour parler de coiffure, François. Non. Malheureusement, j'aurais aimé ça, mais on n'a pas le temps. Je veux que... Puis on va commencer avec un sujet d'actualité et surtout très important, en ce sens qu'un des problèmes qu'on vit avec l'Internet, c'est la surveillance, c'est le contrôle. Le CRTC a dit, moi, je m'en occupe pas. En tout cas, pas pour tout de suite. Là, ils ont donné une espèce de bail, là, où ils ont donné une période de grâce jusqu'à ce qu'ils statuent et qu'ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce que c'est très complexe. Mais là, il y a le gouvernement conservateur qui arrive avec un projet de loi qui autoriserait, de ce que je comprends, les fournisseurs Internet à surveiller leurs clients. C'est ça?
Exact. Et en réalité, c'est un projet de loi des libéraux qui est mort dans l'œuf, suite au gouvernement minoritaire, et que là, le gouvernement de M. Harper voudrait ramener sur la table très bientôt. Donc, c'est un projet de loi qui va permettre vraiment de mieux encadrer la surveillance sur Internet. Parce que là, présentement, Internet, bon, ça appartient à qui? Ça appartient à peu près à personne, à toutes sortes de compagnies qui se greffent là-dedans. Mmh. Alors, c'est difficile pour quelqu'un qui, mettons, est victime d'un abus sur Internet, que ce soit un enfant qui se fait courir par un pédophile, ou que ce soit un adulte qui tombe par inadvertance sur des sites auxquels il voudrait pas tomber. C'est difficile de porter plainte dans ces situations-là. Parce que, mettons que t'es à la maison, t'es avec un fournisseur, tu portes plainte, c'est excessivement long, on te répond jamais. Puis quand on arrive au bout de la plainte, même si t'es allé avec la police pour faire une plainte, ça se peut qu'on dise, ben là, nous autres, on n'a pas gardé les logs, hein, tu sais, on garde ça une semaine parce que c'est la limite, hein, ça prend vraiment beaucoup de place.
Quand tu parles de logs, c'est le chemin, là.
Toutes les informations qu'on emmagasine sur chaque personne qui se connecte sur Internet, parce que quand tu te connectes, t'as un numéro qui t'attribue, qu'on appelle ton adresse IP pour Internet Protocol, et là, ça te suit.
Tout le temps.
Ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que tu échanges comme fichier. Mais on fait pas vraiment le suivi sur tout ça, tu sais, on sait que toi, t'es 27, 33, 42, 54, puis t'es allé sur Internet, tu t'es essayé de telle heure à telle heure, puis t'as fait ci, t'as fait ça. Mais on garde pas vraiment ça en banque pendant des années, là, parce que c'est énorme le nombre de quantités d'informations qui s'accumulent. Si on parle, tu sais, de millions de clients avec Vidéotron, avec Bell et ainsi de suite, et aux États-Unis, c'est encore plus. Et là, on va un peu serrer la vis avec différents projets de loi. Aux États-Unis, il y a la même chose qui se prépare actuellement. Ça, c'est vraiment dans le but qu'on nous dit de enrayer autant que possible, de diminuer la pornographie infantile pour mieux contrôler les gens aussi qui sont pédophiles sur Internet. Donc, on nous vend ça comme ça. Mais évidemment, si on offre la possibilité technologique de mieux surveiller les individus pour ça, ça va pouvoir être aussi pour surveiller les terroristes, par exemple, ou surveiller les gens qui font peut-être des transactions bancaires douteuses. Donc, ça peut peut-être être très large. Donc, c'est une possible invasion de la vie privée. Là. C'est ça qui inquiète les gens.
Donc, ça ouvre la porte aussi à surveiller les téléchargements des gens.
Oui, parce que présentement, ce qui se passe surtout aux États-Unis, c'est qu'on veut forcer les compagnies à être un peu plus responsables. Donc, Microsoft, Yahoo, American Online, qui sont des très gros fournisseurs d'Internet ou des fournisseurs de services sur Internet, comme dans le cas de Microsoft, vont un peu embarquer et emboîter le pas et ont décidé eux-mêmes de se dire, écoutez, bon d'accord, il y a un projet de loi américain là qui est en train d'être déposé, nous on va y aller de l'avant, on va mettre 1 million sur la table d'ici la fin de l'année pour développer des formules qui vont permettre de filtrer un peu plus le courrier. Parce que présentement, les fournisseurs ont toutes sortes de services d'intégrer pour enlever, mettons, les virus, pour diminuer un peu le pourriel, même si ça marche pas très bien partout. Mais ils ont quand même des formules mathématiques qui sont mises en place dans les serveurs de courrier pour filtrer ça.
OK.
Là, on se dit, ben, pourquoi ils ne pourraient pas filtrer le contenu pornographique non désirable ou infantile? Alors ça, c'est assez compliqué parce qu'on parle d'images. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est créer une banque de données d'images, auxquelles, bien sûr, les gens n'auront pas accès, parce que ça serait probablement le paradis des pédophiles. Mais ouais. Ils vont créer une banque d'images qui vont assigner des signatures. Ils vont voir visuellement chaque image a une signature, une trace mathématique qu'ils vont faire. Et là, ça, ils vont pouvoir filtrer tout ça. Et si jamais quelqu'un... reçoit fréquemment par email ce genre de documents-là, ils vont pouvoir le rapporter à ce moment-là.
À tout le moins, ils vont à ce moment-là, quand ils vont obtenir des informations, ils vont dire, OK, lui est à vérifier. Par exemple, tel client au nord de l'Alabama et reçoit souvent ce genre de courrier-là. Allons voir qu'est-ce qui se trouve dans sa boîte. Puis là, ça nous aide à avec le principe de l'entonnoir. Mais on est-tu d'accord que la minute où tu crées un virus, il y a un antivirus, puis ainsi de suite. Je veux dire, il y a certainement des moyens qui seront utilisés.
Oui, c'est sûr qu'il y a une alternative. Si on veut pas échanger des fichiers par courrier électronique, on peut aller dans les réseaux de distribution de fichiers. On peut aller aussi sur les groupes de discussion sur Internet. Donc, il y a d'autres moyens. Et là, America Online a dit, écoutez, oui, on va d'abord s'occuper du courrier électronique parce que c'est quand même ce qui est plus utilisé, mais on va aussi regarder ça, là, ces autres, la façon d'échanger des fichiers via le web, là, en général. Donc, ils vont quand même aussi s'occuper de ce problème-là parce que c'est assez global la façon. S'ils font juste limiter le courrier électronique, ben, les gens vont trouver un autre moyen de s'échanger ces fichiers-là. Et là, ils veulent aller, unilatéralement, aller prendre toutes les façons possibles. Même la messagerie instantanée, Internet Messenger, c'est facile, ça change un fichier. C'est pas du courrier électronique. C'est pas sur un site web, c'est vraiment un échange entre deux personnes. Donc, ils veulent aussi s'occuper de ça.
Mais tantôt, tu parlais, tu disais qu'ils ne gardent pas les logs, c'est-à-dire le chemin que toi t'empruntes à chaque fois que tu te branches sur Internet. Mais mettons, là, moi, je suis avec MSN, puis on discute, toi puis moi, là, t'es chez vous, moi, je suis chez nous, puis on discute. Ce que je mets là sur l'ordinateur, ça reste dans ma machine.
C'est encrypté, l'information, tout ce que tu t'échanges, là, en réalité, c'est des chiffres qui
des
passent.
Zéro puis des
zéros qui se passent. Ouais. Et c'est des petits paquets. Eux, s'ils récupèrent les petits paquets, ils peuvent refaire le paquet original, comprends-tu? Donc, c'est un peu ça là, qu'ils vont pouvoir faire, là, de vraiment surveiller tous les petits paquets, puis les mettre ensemble, okay. Puis voir qu'est-ce que tu as fait.
Mais il y a toujours des traces. Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est quand on a, par exemple, dans l'actualité, une nouvelle qui nous arrive, là, un pédophile qui a été, qui était un prof, je prends l'exemple d'un gars de la Rive-Sud, qui a téléchargé, bon, à travers un ordinateur, puis ça a été découvert quand il l'a apporté son appareil dans une shop d'informatique où on a dit, t'as peu, Christy. Le gars, en faisant le ménage, a trouvé des petits paquets, comme tu parles.
C'est ça.
Un peu louche, puis il a décidé d'alerter la police, tu sais. Mm-hmm. Mais, ça veut dire qu'à chaque fois où, par exemple, moi, je vais sur un site web, que ce soit pornographique ou autre, je laisse des traces dans ma machine.
Absolument, absolument. Oui, oui, parce que, non seulement les navigateurs ont en plus des caches, ils vont emmagasiner tout ce que tu affiches sur une page web pour que la prochaine fois que tu retournes, ce soit plus rapide.
Okay, donc,
on a ça.
Donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire que quelqu'un qui met en ligne, moi, si je visite un site sur lequel on offre des photos de pédophiles ou de jeunes enfants, c'est-à-dire qui intéressent les pédophiles, mais on peut retrouver la personne qui les a mis en ligne ou posté dans
aussi. Oui, aussi, on peut aller très loin dans la recherche. Mais ça, parce que les fournisseurs Internet vont souvent effacer tous les logs, donc toutes les transactions, mettons, de la dernière semaine ou du dernier mois, dépendamment du fournisseur. Mais là, ça devient difficile de retracer parce qu'il manque, il y a des trous à quelque part dans tout ça. C'est comme ça que ces gens-là finissent par s'en sortir. Puis au-delà de toutes les technicalités, moi, ce que je dirais, c'est que ce genre de projet de loi-là, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ou l'initiative, on va dire, personnelle de Microsoft, Yahoo et les autres, ça va faire peur aux gens. C'est qui trempe. Parce qu'ils vont se dire, oh, là, ils ont peut-être des moyens de nous surveiller un peu plus. Fait qu'ils vont, ça va peut-être être en reculer quelques-uns.
Je comprends juste le spectre. Ça va faire, ça va éliminer, en tout cas, les plus chicken, ceux qui se connaissent un peu moins.
Exact. Donc ça va avoir vraiment, parce qu'ils vont, publiciser, là, ils vont en parler. Ouais. Ils vont s'assurer pour que le monde soit au courant. Hey, on peut vous surveiller. C'est comme le principe, tu mets une caméra de surveillance qui est pas branchée n'importe où. Puis tu mets ne volez pas, vous êtes surveillé, ça diminue les vols instinctivement. Là,
les fournisseurs, eux, disent quoi? Tu parlais d'AOL, puis bon, il y en a...
Ben eux, emboîtent le pas, je veux dire, ils sentent...
Vidéotron, puis Sympatico, puis eux autres sont trop petits de toute façon pour ne pas emboîter.
Pas nécessairement, Exactement. Pour le Sympatico, c'est intéressant. Le 15 juin dernier, ils ont changé leur contrat d'adhésion. Parce que lorsque tu as un contrat d'adhésion, tu as des conditions qui sont genre 20 pages de texte qu'on lit jamais. Là. Mm-hmm. Puis ils ont intégré là-dedans une petite mesure où tu vois que ils savent que le gouvernement canadien s'en vient avec ça, puis ils laissent la porte ouverte comme de quoi que les informations que vous transigez peuvent être utilisées contre vous, les mettre gouvernement aussi. Là, et dans la liste des gens qui pourraient l'utiliser, oui, la police, un juge, ça, mais gouvernement aussi. Donc, on voit qu'ils se préparent là, à ce changement-là.
OK, mais eux, ils s'opposeront pas, je veux dire, ils vont suivre.
Non. C'est sûr que c'est pas...
Ça va passer par les majors, ça va passer par les plus importants fournisseurs au monde, qui, eux, vont décider à un moment donné, oui, de resserrer un peu, mais surtout, comme tu dis, de publiciser puis de faire part au monde.
Mais c'est quand même compliqué comme initiative, parce que quelqu'un qui se dit, ben écoute, moi, j'irai plus chez AOL ou chez Microsoft, je vais aller prendre, je vais aller chez un autre fournisseur qui, lui, est pas dans ce consortium-là d'entreprise, il va toujours des moments et des moyens. Et aussi, les gens dans d'autres pays, là. Hein, si tu te connectes via un autre pays, peut-être que ça va être plus difficile à retracer parce que les autres dans leur pays n'ont pas les mêmes lois. Donc, c'est un gros problème, là. Mais par contre, c'est peut-être une des premières fois qu'on tente de régir un peu plus Internet. Ça réavise parce qu'on a toujours dit Internet, c'est la liberté absolue. On peut faire ce qu'on veut, on peut trouver ce qu'on veut sur Internet. Ouais. Mais là, on voit, là, ils commencent à essayer de serrer la vis. Puis il y a des moyens technologiques à leur disposition pour le faire.
Mais moi, si j'avais un petit 10 à gager, là, je parlerais pas de pornographie juvénile. Je pense surtout à la MPA, qui est très agressive avec les sites web.
Qu'est-ce que la MPA?
La Motion Picture Association of America. En duo.
Oui. Ah ouais, OK. Fait que vous pensez que
ça peut aller
l'industrie
plus loin que ça?
Du film a plus de poids politiquement que la population qui demande qu'on contrôle, par exemple.
Moi, je pense que oui, parce qu'ils sont très, très agressifs avec Internet. Ils font fermer des sites, ils font arrêter des...
Des poursuites.
Des exploitants.
Et même, très récemment, on prend le cas de Pirate Bay, qui est un site suédois qui favorise l'échange de fichiers. La recherche de fichiers, si on veut, pirate. Le gouvernement américain a fait pression sur la Suède pour qu'il s'occupe de ce cas-là. Puis ils ont été saisis, la police enquête actuellement, mais là, ils sont quand même ouverts. Là. Sauf qu'ils vont avoir sûrement des mauvaises surprises dans les prochaines semaines.
Ouais.
Les Américains ont le bras long, tu sais. On pense même un détail très, parce que qui contrôle l'Internet, c'est essentiellement, je vous dirais, les Américains, là, qui ont le bras le plus long là-dedans, là.
Ah ouais.
Parce que, les noms de domaine, bon, les .com, les .ca, tout ça, ils voulaient avoir, les gens voulaient qu'on puisse avoir des .xxx pour que l'industrie pornographique aille justement ce problème.
Okay. Ouais.
Et là, les Américains, non, aime pas bien ça, puis le projet est tombé à l'eau.
Pourquoi ils avaient pas, c'est quoi les raisons invoquées?
Ben, ils pensent que ça va encourager davantage cette industrie-là parce que les gens vont savoir maintenant, tu sais, encore plus facilement
où trouver
l'information. C'est sûr que si tu dis, je vais taper quelque chose .xxx, je vais tomber là-dessus.
Non, mais ça aide tout le monde, ça. Je veux dire, s'ils sont plus faciles à trouver, ils sont plus faciles à
surveiller.
Oui, tout à fait.
Mais bon, tu sais, peut-être que des gens d'extrême droite, de certaines branches de l'administration Bush ont fait pression.
Plus religieuses. Non, je comprends ce que tu faisais, mais tu sais, d'un côté comme de l'autre, là, c'est ça. Ça l'aide à les trouver pour l'utilisateur, mais ça l'aide aussi la police, c'est certain. J'ai d'autres sujet sur la liste, là, lequel tu veux qu'on touche?
Parce qu'on peut parler de la Nintendo DS Lite qui est sortie il y a deux semaines.
C'est une console portable.
Bon, la Nintendo DS, c'est une console portable à deux écrans qui a connu beaucoup de succès depuis les deux dernières années. Et là, ils nous sortent un nouveau modèle, plus allégé, donc environ 20% plus léger, puis à peu près deux tiers plus petit. L'écran est quatre fois plus lumineux, donc on a vraiment une meilleure qualité de production. Donc, c'est pas la première fois que Nintendo fait ça, là. Ils ont fait souvent le coup en sortant le Game Boy, Boy Advance, le
Game Boy cool,
le micro, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vraiment promouvoir davantage leur console. Et ils font autre chose pour la promouvoir davantage. C'est qu'ils sortent des jeux maintenant qui s'adressent à un tout autre public qui est les adultes et les retraités.
Et là, tu m'en as présenté un jeu jeux de mémorisation. Plus j'ai réussi à mélanger la machine.
Ils ont sorti une nouvelle marque qui s'appelle le Touch Generation. Donc, des jeux pour toutes les générations pour qu'elles puissent jouer ensemble. Bon, pour que tu puisses jouer avec ton grand-père un jeu, par exemple. Et dans les premiers jeux qu'ils ont sortis, il y a Brain Age, un jeu pour entraîner son cerveau tous les jours, quelques minutes. Mm-hmm. Où ce sont des petits exercices de mathématiques ou de linguistique pour pouvoir se pratiquer. Parce que les dernières études le prouvent, plus on fait travailler notre cerveau avec des choses simples, mathématiques.
C'est un muscle.
Ouais. Donc, ils ont sorti ce jeu-là. Ils vendent tous ces jeux-là, ils vendent à près une trentaine de dollars, donc moins cher que le jeu habituel. Big Brain Academy, qui est la suite du précédent jeu, qui lui permet de jouer contre d'autres personnes. Donc, on peut faire des compétitions entre nous. Et ces jeux-là, en passant, c'est 3 millions d'exemplaires au Japon chacun. Donc, ça cartonne solide. Et ici, ça commence très bien. Et le dernier qui vient de sortir, c'est Sudoku Gridmaster.
Hey, ça, là, c'est une maladie, ça, le Sudoku. Pourquoi ça n'existait pas avant? Puis là, tout le monde triple là-dessus.
Ça existe depuis une vingtaine d'années, curieusement. Puis c'est juste là, c'est populaire présentement. Parce que on a peut-être une population qui qui a vieilli un peu.
Ouais, mais
et c'est ce genre de divertissement qui plaît beaucoup aux gens qui autrefois jouaient beaucoup à des jeux de lettres. Et là, on a des jeux de chiffres qui nécessitent pas d'être bon en mathématiques. C'est des jeux de logique, tout simplement. Ouais. Et de déduction.
Mais ça, c'est une évasion, là. Je veux dire, c'est malade, là. Il y a quelqu'un qui a quelque part l'échappé, là. Là, il y a des sudoku dans tous les journaux. Il y a des livres de sudoku. Hey, j'avais des madames, je suis allé en voyage la semaine dernière. J'avais une madame dans l'avion aussi à côté de moi avec son petit livre de sudoku. Je la regardais, je disais, voyons.
Ouais. Et là, regardez, Nintendo en propose un sur son DS, $30 environ, 400 grilles. Mais pensez-y, là, ça, là, il n'y a rien là à faire ça, là. Ça leur coûte rien faire
un
comme ça.
Aucun pot final.
Il y a des générateurs de grilles sur Internet.
Comment ils vendent ça?
$30. Ils vont en vendre probablement une couple de millions, sans trop de problèmes.
Mais c'est clair qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de travail là-dessus, c'est sûr.
Puis ici, évidemment, c'est un autre type de personne, parce que là, ça, c'est la prochaine bataille importante dans le jeu vidéo, c'est de faire jouer d'autres personnes, pour élargir...
Rappelle-moi l'âge moyen du joueur.
On parle d'une trentaine d'années. 33, c'est exactement l'âge moyen, 33.
Ça m'impressionne tout le temps.
Donc, il vieillit, puis les besoins changent, il n'y a pas autant de temps pour jouer le joueur moyen, donc des fois...
Il y a juste une heure pour dîner. Là, il mange en 3 minutes, puis il joue 57 minutes.
C'est ça.
François, est-ce que le DS Lite est pas un petit peu une réaction aussi au PSP?
Oui, parce que Sony, avec sa console, a quand même allé chercher une part de marché de Nintendo qui était maître et roi de ce domaine-là depuis une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et là, le PSP, malgré qu'il soit cher, se vend quand même assez bien. Il va aller chercher une clientèle plus ado, qui aime les jeux plus de Sony, mais aussi qui aime écouter des films, malgré que les films, ça n'a pas marché très fort, mais de manière pirate, c'est plus facile d'avoir des films sur la PSP.
Des petites vidéos, genre de la musique.
C'est ça, de la musique. Donc, Sony a vraiment attaqué Nintendo, et là, c'est une riposte. Parce que le DS Lite, quand vous le verrez en magasin, c'est plus, on va dire, sexy, c'est plus design que le précédent DS qui était moins joli.
Moi, je comparerais là, les deux appareils, là, je l'avais déjà vu, le DS. Moi, je dirais que le DS, ça ressemble plutôt à un ThinkPad, un ordinateur portable d'IBM. Puis le nouveau DS Lite ressemble plus à un petit Mac, le petit PowerBook.
C'est très inspiré de ce qu'a fait Apple, ça ressemble... Ouais.
Rapidement, là, une minute, il y a une guerre qui se profile. Ça va être surtout cet automne, j'ai l'impression, mais...
150 jours encore avant
Xbox 360, oui, de Nintendo et PS3. Oui, Wii.
Ouais, c'est le nom officiel de la console de Nintendo.
Avec la manette spéciale, il y en a juste une.
C'est ça. Ouais. Si on résume rapidement, là, la Xbox 360, elle est sur le marché depuis le 22 novembre dernier.
Ouais.
On parle de 399 à 499, donc quand même assez cher. La force de Microsoft, c'est le Xbox Live, donc qui permet de jouer à des gens en ligne, de faire des téléchargements en ligne, ça connaît un succès colossal. Microsoft prévoit se rendre à 10 millions d'utilisateurs de sa console d'ici la fin de l'année, puis ils visent eux autres là aussi 6 millions d'utilisateurs en ligne qui vont jouer sur Xbox Live. Puis pour étendre vraiment l'offensive, ils vont développer Xbox Live davantage pour qu'on puisse jouer à des jeux sur console. Mettons à la maison. Puis quand on arrive au travail, sur l'heure du dîner, on peut continuer de partir sur notre PC.
Ah.
Et là, quand on est dans l'autobus pour revenir, on peut prendre le cellulaire pour aller changer les statistiques dans notre jeu. Donc, de tout intégrer ça ensemble. Ça, c'est un gros défi.
OK, il y a moyen de plus avoir de vie, là.
Ce qu'il faut faire attention, c'est que la Xbox 360 comme console n'est pas parfaite d'un point de vue technologique, a été lancée trop rapidement. Et ils préfèrent une révision pour 2007 qui va être un peu moins énergivore. Donc, probablement, on va faire moins de bruit que celle actuelle qui... Mm-hmm. Un bout d'aspirateur. Okay. La PlayStation 3, on parle du 17 novembre 2006, 549 à $659, donc plus cher. Mais la raison est la suivante, elle incorpore un lecteur de DVD nouvelle génération, Blu-ray. Ça, c'est un avantage certain parce que les lecteurs Blu-ray ont été retardés et présentement, ils vont sortir en octobre. Donc, tu sais, la PlayStation, après, ça va peut-être être le lecteur Blu-ray le moins cher. Donc, c'est une offensive de Sony aussi avec ce format-là, qui n'est pas le seul de la prochaine génération des DVD. On a le HD DVD, donc une guerre. Style Beta VHS se profile à l'horizon pour la fin de l'année.
Moi, sûrement encore me faire avoir. Moi,
mais
à l'époque, moi, j'arrive après vacances de Noël, mes parents ont fait un cadeau pour la famille, j'arrive à l'école, on a eu un vidéo!
Un Betamax de Sony.
Seul de ma gang avec un Beta. Ah.
Mais le pire, c'est que Sony pourrait même répéter cette gaffe-là, là, parce que là, ils se ramassent avec, si le Blu-ray perce pas, qu'est-ce qu'on va faire avec une PlayStation 3 qu'un Blu-ray à part jouer à des jeux, on verra pas de film. Donc, c'est un gros risque de la part de Sony.
Okay.
Et Nintendo avec la Wii, on n'a pas la date de sortie, on sait que ça va être avant la PlayStation 3, donc possiblement en octobre. Le prix, on le sait pas, mais on sait que ça va être moins cher que les deux consoles actuellement. Nintendo, historiquement, a lancé ses consoles toujours à $299, donc ça donne un bon indicateur.
Est-ce que ça va être encore un peu moins performant?
Un petit peu moins performant. On parle d'un peu plus que la génération précédente. Nintendo veut pas concurrencer Sony Microsoft parce que c'est trop difficile. Eux, ils vont plutôt innover et proposer une manette totalement différente où on bouge la manette et là, à l'écran, les mouvements vont suivre. Alors, si on a un jeu d'épée, on va prendre la manette, on va bouger l'épée. Donc, on va faire bouger davantage les gens. Ça, c'est un gros pari de Nintendo aussi.
Voilà, bouger davantage les gens aux jeux vidéo. Là,
un jeu de tennis, un jeu de baseball, ouais. Un jeu de Star Wars avec le... C'est clair qu'il va tout avoir ça. C'est un gros risque parce que là, ce que les gens vont embarquer, c'est vraiment bizarre. Nintendo croit que c'est de cette façon-là qu'on va faire grossir le marché. Donc, en ajoutant des gens qui ne jouent pas. On a même vu une démonstration d'un jeu, là, c'est un orchestre symphonique où avec la console, la manette, tu fais comme si t'étais un maître d'orchestre, puis là, la musique suit le tempo.
Mais tu sais, il nous disait ça aussi à l'époque de Gyromite, là, puis du robot, tu sais, il disait, ah, le jeu, il va être plus le fun, tu fais spinner une toupie, spinner quand t'as tourne, ça marche plus.
C'était une façon de déguiser la console, pour que les gens aient l'impression que c'est une console, parce que quand Nintendo a sorti le premier Nintendo Entertainment System, il venait d'avoir un crash dans l'industrie du jeu vidéo, et là, plus personne veut acheter des consoles, puis Nintendo disait, non, c'est pas vraiment
une console. C'est pas juste ça. Une poupée Boutchou avec.
Il y a un fusil, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un centre multimédia, un peu ce que fait aujourd'hui Microsoft et Sony.
Bon, François Tadet, c'est toujours intéressant. Merci d'être passé faire un tour. Je ne te pas là si jamais il y a des infos, parce que la guerre dont on vient de parler, surtout, risque de faire couler beaucoup d'encre. C'est des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs potentiels, puis c'est des gros sous qui sont investis là-dedans. On va certainement avoir un peu de temps pour te recevoir à nouveau. Puis en attendant, là, sers ta petite DS Lite là, à mail.
Le retour avec Hugo, en remplacement de Gilles Bézer. Hugo.